Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le phénomène des mafias ne cesse de se renforcer avec la mondialisation, s'appuyant d'abord sur le contrôle d'un territoire puis sur une extension tentaculaire à l'échelle de la planète. Les mafias s'affranchissent des frontières réelles ou symboliques entre légal et illégal, exploitent la mondialisation des trafics et la fragmentation des espaces politiques et accroissent leur rayonnement à l'échelle internationale, dans lequel les diasporas jouent un rôle certains, portés par leurs activités criminelles dont la principale reste le commerce des drogues. Les organisations mafieuses investissent chaque année davantage le champ des activités légales et les États entretiennent tout autant le phénomène qu'ils le combattent. Elles représentent un défi unique pour les États-nations à travers le monde, enjeu des années à venir, lutter contre leur expansion territoriale. L'histoire ayant montré qu'aucun pays n'a su extirper la mafia une fois celle-ci implantée sur son territoire. Notre invité est Clotilde de Champérache, économiste spécialiste de l'économie criminelle pour son dernier ouvrage « Géopolitique des mafias » paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Parler de géopolitique, c'est parler de territoire et on découvre avec votre livre toute l'importance du territoire attaché à la notion de mafia. Contrôle du territoire, conquête du territoire, il s'agit là des fondamentaux de la mafia, Clotilde de Champérache.
Tout à fait. Quand on pense mafia, on va penser souvent à deux images et deux images un peu opposées de ce rapport au territoire. Il y a le côté Corleone, un peu mis en scène aussi par les films américains, donc un ancrage territorial, mais finalement qui serait très réducteur parce que pour contrôler le territoire, on reste sur une dimension un peu archaïque des choses, une implantation qui serait liée à un petit village et qui donc ne serait pas forcément reproductible. Et puis de l'autre côté, il y a une autre image qui est l'inverse, qui est la pieuvre tentaculaire. La mafia agirait partout dans le monde, serait présente sur tous les continents. Et c'est plutôt l'aspect moderne des choses, avec la mondialisation, effectivement, des trafics illégaux largement internationalisés et auxquels les mafias prennent part.
Alors, trafic illégaux, on verra avec vous cette notion légalité-illégalité qui est intéressante par rapport à mafia et organisation criminelle. Alors, peut-être on peut essayer de comprendre avec vous ce qui différencie la mafia d'une organisation criminelle.
Oui, c'est important de distinguer les choses parce que le terme de mafia était complètement banalisé. On l'a souvent assimilé à la criminalité organisée dans son ensemble. Ça n'est pas vrai. La mafia, c'est une forme très spécifique de criminalité organisée. Hein. C'est un peu la forme ultime, la plus élaborée, un peu la référence aussi, hein, une élite du crime organisé. Et on peut considérer que dans le crime organisé, il y a plein de familles différentes. Il y a des formes un peu faibles avec une association de personnes, l'association de malfaiteurs dans le code pénal français, qui se regroupent pour commettre de façon répétée des activités illégales punies par la loi. Et puis, à l'autre extrême, il y a cette forme qui met l'accent sur la dimension organisationnelle, qui sont les mafias. Et il n'y a qu'un seul pays au monde qui a défini ce que c'est qu'une mafia, c'est évidemment l'Italie. Alors, ce qui est dommage, c'est que d'autres pays n'aient pas également adopté cette définition-là, parce que ça spécifie vraiment ce que c'est qu'une mafia. Alors, on peut reprendre cette définition italienne, c'est l'article 416 bis du Code pénal italien, qui vous dit déjà que le lien associatif est fondamental. Donc, c'est une capacité à créer un groupe durable, transgénérationnel, puisque les mafias en Italie naissent au 19e siècle et sont toujours actives, ce qui veut dire aussi qu'elles ne sont pas dépendantes d'un chef charismatique. Et cette force du lien associatif, elle conditionne aussi bien les membres, qui deviennent membres à vie, qui respectent un certain code de comportement, et ça va conditionner aussi l'extérieur. C'est la fameuse omerta, la loi du silence qui va peser, c'est l'assujettissement, dit le code pénal italien, même si aujourd'hui on évolue aussi vers des dimensions de complicité active ou passive. Ce que vous dit aussi le code pénal italien, alors il faut bien avoir le cumul de ces choses, c'est qu'évidemment il y a des activités illégales qui sont commises, mais aussi, et ça c'est vraiment spécifique aux mafias, et c'est là que toutes les criminalités organisées ne sont pas à ce stade-là de développement, il y a des activités économiques légales qui sont menées, notamment en lien avec tout ce qui est marché public, et il y a une capacité de conditionnement des élections, au moins locales, donc conditionnement du vote.
Alors, marché public, et vous le développez très bien dans votre ouvrage, c'est cette, alors à défaut de mainmise en tout cas, la mafia s'intéresse beaucoup au BTP, tout ce qui est construction de routes, de ponts, expliquez-nous.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le BTP, c'est la manifestation l'action actuelle de cette infiltration mafieuse. Toute mafia va cibler en particulier ce secteur, mais ça s'inscrit dans un continuum de rapport au légal. Les mafias sont présentes dans la sphère légale dès le début de leur existence. Et elles sont présentes dans le légal pas seulement pour blanchir de l'argent, mais parce qu'elles recherchent le légal pour lui-même. Et ça, c'est vraiment une distinction par rapport à d'autres organisations criminelles. Et le BTP, ben, c'est un secteur particulièrement appétissant parce que c'est un secteur qui permet de drainer la manne du financement public. Et il y a beaucoup de montées en puissance d'organisations de type mafieuse grâce à ce financement, cette privatisation de l'argent public qui va tomber dans des mains mafieuses à travers des entreprises légales, déclarées avec une activité productive, mais qui sont possédées par des mafieux. De l'autre sens, c'est aussi que le BTP, par définition, c'est un secteur qui mobilise beaucoup de main-d'œuvre, donc qui construit une légitimité sociale sur un territoire. La mafia, c'est aussi un employeur qui crée de l'emploi, qui distribue des revenus et qui participe, même si c'est d'une façon dévoyée, au développement économique d'un territoire.
Alors, vous avez parlé de l'Italie avec la naissance de la mafia au 19e siècle. Ce qui est important, peut-être, c'est de revenir sur le contexte socio-économique. Quel est le rôle de la mafia dans les contextes socio-économiques? Et j'ai cette question, pourquoi, Clotilde Champerrache, le phénomène mafieux est-il né pour l'Italie dans le sud de la péninsule plutôt qu'ailleurs, en Piémont ou en Émilie-Romagne?
Alors, il y a toujours des débats qui sont ouverts sur cette question-là. Pourquoi le sud de l'Italie? Et en plus, si on regarde véritablement le sud, c'est ce que les Italiens appellent un développement en tache de léopard, c'est-à-dire que tout le sud n'est pas concerné. Une partie de l'explication, c'est de dire qu'il y a quand même eu une vacance du pouvoir effectif sur ces territoires-là. Donc, le pouvoir central absent ou changeant régulièrement. C'est le cas de la Sicile, qui était la proie de souverains étrangers qui s'emparaient de l'île, puis qui cédaient la place à d'autres. Et puis, en termes d'ancrage encore plus territorial, pour la Sicile, il y a une différence entre l'est et l'ouest de l'île. La mafia se développe à l'ouest, du côté de Palerme, et notamment dans une zone qu'on appelle la Conque d'Or, qui était une zone extrêmement riche. Et ça, il faut bien le percevoir, alors que le regard actuel qu'on a, c'est la Sicile, île sous-développée. À ce moment-là, la Conque d'Or est extrêmement riche et commercialise notamment les agrumes à l'international, avec un cours des agrumes qui est très favorable. Donc il y a une richesse à s'accaparer et les propriétaires terriens sont largement absents. Alors que ce n'est pas le cas pour l'est de l'île. Et on considère que ce développement de la mafia se fait autour de cet absentéisme avec des personnes, des gardiens de champs qui sont des personnes connues pour leur violence, qui vont intermédier pour le compte des propriétaires absents en contrôlant les champs, en faisant en sorte que la main-d'œuvre travaille et en même temps en collectant tout un tas d'informations sur la richesse économique de la zone.
Alors on reparlera bien sûr de l'Italie avec vous, Clotilde Champerrache, mais alors il y a d'autres groupes mafieux que vous citez. C'est les triades pour la Chine et les yakuza pour le Japon. Le démarrage et l'ancrage de ces mafias dans chacun des pays concernés s'est fait de la même façon qu'en Italie?
Alors c'est un peu compliqué, notamment le fait d'utiliser le terme en dehors de l'Italie. Le code pénal italien, l'article 416 bis, c'est 1982. Donc c'est extrêmement tardif pour l'Italie et au départ c'est pour viser la Sicile. C'est Cosa Nostra et c'est ce qui va donner lieu au maxi procès de 1986 contre la mafia sicilienne. Puis le législateur italien dit finalement à Naples on a la Camorra qui ressemble beaucoup, donc on va étendre le terme. Et plus tardivement, il y a la 'Ndrangheta calabrese qui est considérée aussi comme étant de type mafieux, donc rentrant dans ce champ-là. Et le code pénal italien va évoluer en disant que cette dénomination peut s'appliquer à d'autres organisations criminelles que Cosa Nostra et Camorra, et que ça peut même s'appliquer à l'étranger. Donc il y a tout un débat sur est-ce que dans les procès, on va appliquer ce terme de mafia en dehors de ce qui est déjà clairement identifié. Et bah, si on reprend les caractéristiques que j'ai énoncées à l'article 416 bis, on retrouve ça clairement pour les yakuza japonais et pour les triades chinoises, notamment ce positionnement dans la sphère légale. Cette capacité de se présenter comme des intermédiaires auxquels on ne peut pas échapper. On a une sphère légale, étatique, reconnue, légitime, mais on a aussi ces prestataires de services alternatifs qui viennent remplir une demande sociale d'une certaine façon. Donc la ressemblance, elle est là. Tout en cumulant des activités illégales, tout en infiltrant l'économie légale et tout en conditionnant la sphère politique.
Alors vous ne parlez pas du tout, par exemple, de la Russie, des organisations criminelles russes. Est-ce qu'il y a une mafia russe?
J'évoque un peu parce qu'effectivement, le terme a beaucoup été employé, mafia russe. Il a été fortement dévoyé parce qu'il a été employé à des fins politiques, notamment sous l'ère Yeltsin. Yeltsin, dès qu'il avait un opposant ou un concurrent à battre, il le qualifiait de mafieux. On a parlé de mafia ouzbek, de mafia du coton, etc. Pour désigner des phénomènes qui pouvaient être criminels ou qui pouvaient être de la corruption politique, tout simplement, sans que ça soit véritablement de la mafia. Ce qu'on a observé au moment de la transition économique vers un système capitaliste, c'est une montée en puissance d'une certaine forme de criminalité organisée. Une criminalité organisée qui avait des contacts directs avec la sphère légale, qui aussi était très fortement territorialisée. Mais à l'heure actuelle, on ne parle plus vraiment de mafia au sens strict du terme pour la Russie. Et pour la Russie, ce qui pose problème actuellement, c'est beaucoup la cybercriminalité.
Alors, qu'en est-il des groupements albanais ? Y a-t-il une mafia albanaise ? Et on parlera aussi du Nigeria.
Alors, il y a des bandes criminelles albanaises très répandues, très actives, notamment dans le trafic de stupéfiants et dans la traite des êtres humains à des fins de prostitution. Par contre, ce qu'on ne retrouve pas pour les Albanais, c'est cette dimension de contrôle territorial et de contrôle de la sphère légale. C'est-à-dire qu'il y a une forte dimension de corruption dans la sphère étatique albanaise, mais on n'est pas dans le conditionnement et dans la superposition des strates, parce que pour l'Italie notamment, l'État existe, il n'est pas réellement contesté par les mafias. Les mafias ne visent pas à renverser l'État établi, elles sont productrices d'ordre. Mais elles viennent en complément et parfois elles se positionnent en essayant de se présenter comme des prestataires plus efficaces que l'État, mais sans jamais vouloir renverser l'État. Là, on n'est pas dans ces configurations-là. Pour les Nigérians, on a effectivement aussi des organisations criminelles de plus en plus puissantes, mais qui n'ont pas ce même rapport au légal, notamment parce que les Nigérians sont beaucoup présents à l'étranger et qu'ils ne sont pas puissants au point de contrôler des élections locales territoriales. Par contre, la législation italienne permet d'appliquer le délit d'association mafieuse quand on considère qu'il y a utilisation de la méthode mafieuse. Et certains gangs nigérians ont été condamnés avec cette aggravante de la méthode mafieuse.
Alors, le délit d'association mafieuse, on va en parler et peut-être maintenant, tout de suite, avec vous. Et puis, il y a d'autres sujets qu'on abordera. Alors, vous le dites en conclusion de votre ouvrage, on va parler de la France. Vous parlez de décalage entre les perceptions françaises et italiennes du risque mafieux. En France. Vous dites que les rapports de la DIA, qui est la Drug Information...
Direction Investigative Antimafia, Direction d'Enquête Antimafia.
Voilà, qui désigne régulièrement la France comme un pays à haut risque d'infiltration mafieuse. Mais la tendance chez nous, dites-vous, la tendance dominante est de considérer que le pays n'est qu'une base de repli pour mafieux en fuite ou qu'une terre de transit pour les marchandises illégales. En 2011, la présence du clan Pellegrino sur la Côte d'Azur est avérée. En 2015, ce sont des membres de la famille Magnoli, peut-être je le prononce pas bien, qui sont interpellés près de Valoris. On est toujours dans le sud de la France. Et à chaque fois, seule la participation au trafic de stupéfiants retient l'attention des enquêteurs. Qu'est-ce qui se passe en France, Clotilde Jean-Perrache, pour qu'on ne veuille pas nommer les choses telles qu'elles sont? On n'est pas plus épargné que les autres?
Non, mais il se passe en France ce qui se passe à l'échelle de toute l'Union européenne, c'est-à-dire un déni de mafia avec l'idée, et là on retient surtout l'image de Corleone, hein, c'est cette sorte d'archaïsme, ce folklore italien. La mafia, c'est un problème italien, et si on a des mafieux qui sont présents sur le territoire français, c'est pour simplement des trafics, donc de l'illégal. Et en particulier, on est obnubilé, mais comme le monde entier, par le trafic de stupéfiants. Et donc, on va voir les choses à travers le seul prisme de ce trafic de stupéfiants, sans comprendre la dimension infiltration, sans comprendre que si des mafieux sont présents dans la sphère légale, ça n'est pas que pour blanchir de l'argent. C'est-à-dire que, et ça se retrouve aussi même dans le discours des économistes. Alors les économistes s'intéressent très peu à la sphère criminelle, malheureusement, parce qu'on est sur des modèles idéalisés du monde où le marché apporte harmonie et échange sur un monde qui est considéré d'office comme légal, ou alors on légalise parce que justement il y a une offre et une demande. Et on ne voit pas la dimension de pouvoir de ces organisations criminelles. On ne voit pas qu'on peut être présent en tant que criminel dans la sphère légale, pas seulement comme conséquence des activités légales. C'est-à-dire, j'ai de l'argent sale, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir le dépenser et en faire quelque chose ? Le secteur du BTP, c'est bien ça, on n'est pas dans le blanchiment, on est dans j'ai une activité économique, je suis un acteur économique, je privatise de l'argent, je m'enrichis dans la sphère légale, en même temps, je conditionne l'économie, parce que vous pouvez aussi faire travailler vos entreprises, imposer des fournisseurs, faire recruter de la main-d'œuvre, y compris de la main-d'œuvre criminelle dans des entreprises. Vous pouvez aussi privilégier la malfaçon et faire en sorte que le chantier attribué une première fois, il faille le réparer et on fait appel à la même entreprise. Donc vous créez une boucle où vous êtes présent dans la sphère légale et vous vous enrichissez. Mais il n'y a pas que cette dimension d'enrichissement. Encore une fois, il y a le conditionnement de la société par les emplois créés, le conditionnement de la politique par cet échange réciproque de faveurs.
Alors, ce qu'on doit souligner, puisqu'on parlait de délits d'associations mafieuses, c'est que les peines encourues par les gens qui sont rattrapés par la police, etc., sont des peines qui sont largement supérieures à associations de malfaiteurs. Mais ce déni de mafia que vous évoquez à l'échelle européenne, on voit les Allemands peut-être bouger davantage ?
Alors les Allemands ont une alerte très forte en 2007 avec les attentats de Duisbourg. Six mafieux calabrais abattus en pleine nuit d'août 2007 dans une petite ville allemande jusque-là pas très pas connue à l'échelle mondiale. Donc c'est un peu la stupeur, on se dit tiens, il y a une présence mafieuse, en plus ils règlent leurs comptes sur notre territoire, que se passe-t-il ? Mais ça, ça a été un révélateur aussi du manque de considération pour ce que c'est qu'un phénomène mafieux et puis aussi pour les alertes de la police italienne. La police italienne avait averti l'Allemagne qu'il y avait des mouvements de personnes qui étaient problématiques, qu'il y avait une intensification dans ces flux et qu'il y avait un territoire à contrôler. Les Allemands n'y ont pas fait attention plus que ça, alors avec en plus sans doute un problème de communication entre la police fédérale et la police au niveau du Land concerné. Mmh. Et ce qu'a montré aussi ces assassinats, quand on a creusé un peu plus, c'est que c'était sûrement lié à un trafic de stupéfiants, mais qu'en même temps, il y avait un réseau de restaurants. Les restaurants, ça permet aussi de blanchir de l'argent, ça permet de placer de la marchandise illégale.
Restaurants, je vous interromps deux secondes, bars et autres boîtes de
nuit. Oui, alors en l'occurrence, là, c'était lié à une pizzeria où un des membres travaillait. Mais il y a plusieurs restaurants qui ont été identifiés par la suite. Et là, on n'est pas dans la mythologie de la holding financière qui contrôle le monde. C'est des petites entreprises qui permettent de brasser de l'argent, de recruter des personnes et aussi de contrer les mesures éventuelles de confiscation de patrimoine, parce qu'on va éventuellement identifier un restaurant, confisquer ce restaurant-là, mais sans voir toute la chaîne patrimoniale qui peut exister. On s'est aperçu aussi qu'un des assassinés venait d'être fait membre de la mafia calabraise. Donc ça, on ne le fait pas sur n'importe quel territoire. Donc derrière, il y a eu des préoccupations plus importantes qui ont émergé. Ceci étant, l'enquête a été bouclée sans qu'on aille au fond de l'enquête patrimoniale sur ce qui pouvait être présent dans la sphère légale. Et l'Allemagne a un peu rapidement tourné la page de cette présence mafieuse révélée par l'anomalie de cet excès de violence sur un territoire hors berceau calabrais.
Alors, on parlera de l'internationalisation qui quittera l'Europe peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Mais très rapidement, pour terminer cette première partie, vous le dites aussi, l'Italie milite beaucoup pour que les États, et en tout premier lieu les partenaires européens, intègrent à leur code pénal le délit d'association mafieuse pour le distinguer de la simple association de malfaiteurs. La réponse est négative. Globalement. Et vous parlez d'une attitude de déni qui est dangereuse, d'autant que aucun pays n'a jamais su ou pu s'extirper ou extirper la mafia une fois celle-ci implantée sur son territoire. On n'a pas le temps de développer dans la première partie de cette émission. On poursuivra, Claudine de Jean-Perrache, après le journal. On
vous
retrouve.
Avec plaisir.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invitée, Clotilde de Champérache, économiste, spécialiste de l'économie criminelle, pour son dernier ouvrage, Géopolitique des mafias, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Clotilde de Champérache a terminé la première partie de l'émission sur ce que vous évoquiez, le déni de mafia en France, mais pas seulement, assez généralement en Union européenne. Et l'Italie, où la mafia est née au XIXe siècle, milite pour que les autres États et les partenaires européens d'Italie intègrent à leur code pénal le délit d'association mafieuse pour les distinguer de la simple association de malfaiteurs avec une réponse négative. On peut souligner que les peines encourues ne sont pas les mêmes selon qu'il y a délit d'association mafieuse ou simple association de malfaiteurs. Vous dites que cette attitude de déni est une attitude dangereuse parce que aucun pays n'a jamais su extirper la mafia une fois celle-ci implantée sur son territoire. Une explication ?
C'est encore cette vision parcellaire que l'on peut avoir lorsqu'on ne cherche pas à définir les différentes modalités d'être organisation criminelle. On est dans le haut du panier et c'est vrai qu'une fois que les mafias arrivent à contrôler un territoire, on n'a encore jamais réussi à les extirper. Or, ce que nous montre l'actualité, différentes enquêtes, c'est que les mafias sont capables de contrôler un territoire en dehors de leur berceau d'origine. Auparavant, on se disait, la mafia sicilienne, c'est Palerme, c'est une problématique insulaire, mais en dehors de ces territoires-là, les mafieux vont se comporter comme des gangsters, comme une organisation criminelle standard. Et c'est vrai que parfois, ils le font. Quand Tommaso Buscetta est présent au Brésil, il y est en tant qu'émanation d'une famille mafieuse, mais il est là pour le trafic de stupéfiants, et il traite avec des narcotrafiquants, et il n'est pas un mafieux s'implantant sur le territoire. Par contre, le cas de Duisbourg est plus préoccupant dans ce que ça montre comme emprise territoriale avec des activités légales, peut-être des tentatives de corruption. Dans les années 50, au Canada, en Australie, on a une alerte sur ce qu'on a appelé le groupe Siderno. Siderno, c'est une petite ville de Calabre. Et on s'aperçoit qu'il y a eu des flux migratoires, incluant des mafieux, et que ces mafieux de la famille de Siderno ont commencé sur place alors à gérer des affaires illégales, trafic de stupéfiants, jeux clandestins, mais qui sont aussi présents dans le BTP et qu'ils essayent, alors a priori sans avoir réussi, mais ils essayent de manipuler des élections locales par le principe de ce qu'on appelle le vote d'échange en Italie, c'est-à-dire un contrôle sur les territoires qui s'exprime par un contrôle aussi sur la population, dire moi je contrôle tant de voix et présenter ce paquet de voix aux politiciens, n'importe lesquels, il n'y a pas d'idéologie véritablement derrière ces mafias, enfin sauf pour les Yakuza, présenter ces paquets de voix en disant si vous êtes élu, grâce à moi, qu'est-ce que vous me rendez comme faveur ensuite. Et généralement, ce sont les marchés publics, mais ça peut être des plans d'urbanisme qui changent, des autorisations pour construire des centres commerciaux. Actuellement, en Sicile, c'est un gros problème. On a plus de centres commerciaux que de capacité de consommation sur l'île. Ça peut être aussi des petites choses comme des places en crèche, des places en maison de retraite. Et là, le mafieux redevient cet intermédiaire qui est légitimement reconnu par la population comme prestataire de services.
Alors, je souhaitais qu'on parle tout de suite, mais peut-être je décale ma question sur le développement de la mafia aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Avec cette notion que vous évoquez, ce sont les flux migratoires, savoir si la mafia accompagne les flux migratoires ou les flux migratoires l'ont précédé ou suivi, je ne sais pas. Mais vous disiez qu'à l'instant que les mafias n'avaient pas d'idéologie, sauf peut-être les Yakuza.
Parce que quand on regarde les votes mafieux, notamment en Sicile, il y a eu un parti qui a particulièrement été concerné, c'est la démocratie chrétienne. Ceci étant, quand on regarde les manœuvres politiques des mafieux, on voit qu'à un moment, ils ont développé une tentative un peu séparatiste et puis que finalement, ça n'a pas pris, ils se sont retournés vers d'autres. Et si ça a ciblé particulièrement la démocratie chrétienne, c'est parce qu'elle est rentrée dans le jeu. Donc ça aurait pu être un autre parti, d'autres politiciens pouvaient accepter ce pacte, il était proposé de façon assez large. Pour les Yakuza japonais, on a un lien direct avec un parti national-socialiste parce qu'il y a cette tradition-là, parce qu'aussi, il y a un enchevêtrement avec la question de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte contre l'expansion du communisme. Et c'est là aussi que des mafias, y compris en Italie, vont être un peu mises en avant comme partenaires pour endiguer l'expansion communiste.
Alors, j'ai cette question qui me vient à propos de l'implication ou des liens avec les milieux politiques. Le cas précis du Mexique avec les cartels de drogue et des partis politiques au Mexique qui sont vraiment totalement infiltrés. Les cartels de drogue au Mexique, ce sont des mafias ou ce sont des organisations criminelles ?
Alors, ce sont des organisations criminelles très spécialisées, c'est-à-dire que l'essentiel de leurs ressources viennent d'une seule activité illégale. Pour les mafias, on a toujours un portefeuille d'activités, aussi bien dans la sphère légale que dans la sphère illégale. C'est-à-dire que les mafias, au sens strict du terme, ne sont pas spécialisées, tant dans le légal que dans l'illégal. Dans l'illégal, on parle beaucoup du trafic de stupéfiants, mais pour les mafias italiennes, il y a le trafic de déchets, il y a les fraudes alimentaires, il y a toute une gamme d'activités. Il peut y avoir la traite des êtres humains pour les mafias asiatiques, et puis diversification dans la sphère légal aussi, on a parlé du BTP, mais quand on regarde la sphère sanitaire, le tourisme, l'agriculture, tout est potentiellement cible pour ces mafias-là et elles n'abandonnent pas les secteurs d'activité conquis. Donc pour les narcotrafiquants, on a quand même une hyper spécialisation. Et cette hyperspécialisation dans un secteur qui rapporte beaucoup, malgré une forte répression, ça a engendré des flux financiers énormes. Et ces flux financiers permettent de corrompre massivement. Donc là, la corruption politique, ça vient en conséquence d'un enrichissement illégal. On n'est pas dans le contrôle de la sphère légale pour elle-même véritablement. Ce qui n'empêche pas que des narcotrafiquants puissent là aussi s'inspirer de la méthode mafieuse, se créer une légitimité sociale parce qu'il y a un jeu narcotrafiquant contre État. C'est aussi toute la culture criminelle qui peut se développer, les narcocorridos qui ressemblent aux chants néo-mélodiques, une partie des chants néo-mélodiques de Naples ou de la musique calabraise qui valorise la figure du criminel. Mais on n'est pas dans la présence dans le légal dès le début de la construction de l'organisation criminelle.
Est-ce qu'on peut dire, Clotilde Champérage, que la mafia, finalement, est une sorte de modèle pour les organisations criminelles ?
Tout à fait, oui. Oui, c'est le modèle gagnant, c'est le haut de la hiérarchie, hein, parce que ces organisations criminelles cohabitent de plus en plus et se co-gèrent. Et les organisations criminelles savent très bien qui est, entre guillemets, en haut du panier et qui, par contre, est dans une logique plus subalterne. Et on le voit, hein, les triades traitent d'égal à égal avec les yakuza, alors qu'elles ne vont pas le faire avec de la criminalité, par exemple, vietnamienne. Donc il y a cette hiérarchie qui est faite. Et puis il y a des phénomènes qu'on peut qualifier d'émulation, où on va copier la méthode parce que c'est effectivement le modèle gagnant. Les Nigérians sont dans cette logique-là, hein, d'imitation. En plus, comme il y a des phénomènes de cohabitation, les organisations criminelles sont au contact les unes des autres, donc elles apprennent aussi au contact les unes des autres.
Alors, cohabitation, c'est un mot sur lequel je souhaite qu'on rebondisse. Précisément, comment expliquer que les mafias italiennes autorisent ou laissent les Nigérians qui, je ne sais pas, d'autres groupes mafieux ou pas, ou organisations criminelles, œuvrer sur leur territoire? Il y a quoi? Il y a un partage des tâches? Il y a une délégation? Il y a aussi peut-être du profit à tirer? Je vous laisse de l'espace, mais vous me donnez un pourcentage de votre business. Comment ça se passe, Clotilde Champérage?
Effectivement, ça c'est quelque chose aussi qu'on ne perçoit pas toujours forcément bien, y compris quand on veut lutter contre ces organisations criminelles. Souvent, on est au prisme de la violence comme indicateur de la présence d'organisations criminelles sur un territoire. Et puis, si on est d'un point de vue économique, il y a cette idée qui est complètement infondée qu'une organisation illégale se structure sous la forme d'un monopole, avec une organisation criminelle hyperpuissante qui gérerait tout. La réalité, c'est que non, il n'y a pas une organisation criminelle capable de tout gérer. D'ailleurs, les organisations criminelles n'ont pas intérêt non plus à avoir cette forme énorme, tentaculaire. Donc, il y a des coopérations qui se font. Par exemple, la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, gère la quasi-totalité de l'approvisionnement en cocaïne pour l'Europe. Mais elle le fait en collaboration avec les narcotrafiquants en Amérique du Sud parce que c'est là qu'est la matière première. Donc il y a cette coopération, alors qui peut changer de nature aussi. Hein. Au départ, les narcotrafiquants imposaient leurs conditions. Maintenant, on sait que les mafieux calabrais ont monté en puissance et que c'est eux qui négocient, qui gèrent le transport, qui gèrent éventuellement les phases pour raffiner la cocaïne pure. Et puis pour éventuellement raffiner ailleurs qu'en Amérique latine pour là aussi opacifier la circulation de la drogue. Ensuite, il peut y avoir aussi des délégations sur le territoire même de ces mafias. Et là, on est par exemple dans la distribution de la drogue. Le marché de gros est assez concentré pour les stupéfiants, avec de grands acteurs. Par contre, la distribution, on a une myriade de réseaux, ce qui aussi rend le travail des forces de l'ordre extrêmement compliqué. Parce qu'on peut arrêter des dealers, on peut le faire tous les jours, ça ne changera pas la capacité des consommateurs à pouvoir s'approvisionner. Et c'est intéressant pour les mafias parce qu'en déléguant, elles donnent le travail qui est le plus visible, le travail de rue, à d'autres organisations criminelles. Elles les maintiennent un peu sous leur coupe. Donc elles échappent en grande partie à la répression, puisque les arrestations se font plus dans la rue qu'au niveau des donneurs d'ordre. Elles délèguent aussi ce qui rapporte le moins. La distribution dans la rue, ce n'est pas là que se dégage le maximum de marge, c'est dans le marché de gros. Elles peuvent aussi instrumentaliser ça en termes de logique d'honneur, puisque les mafias développent aussi tout un discours valorisant autour de leurs activités, y compris criminelles. Il y a ce mythe que les mafieux ne traitent pas d'affaires déshonorantes, la drogue qui rend les consommateurs quand même dans des mauvaises conditions de santé, voire même qui introduit la mort. Pareil pour la prostitution, on ne se mêle pas de ces affaires-là. Donc en déléguant, on peut faire croire qu'on n'est pas aux manettes. Ça peut même déboucher sur des rapports d'instrumentalisation du racisme. En Italie, on a une délégation qui se fait aux organisations nigérianes avec l'idée de dire « c'est pas nous, c'est les Noirs qui font ça sur ce territoire ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est posé la question, même au niveau des forces de l'ordre italiennes, est-ce que d'avoir ces Nigérians qui travaillent en Sicile, qui travaillent à Naples, est-ce que c'est le signe d'une faiblesse, d'une perte de puissance de ces organisations mafieuses, et notamment en Sicile, on est arrivé à l'idée que non, c'était un pacte, notamment pour une zone précise de Palerme, le pacte de Ballaro, où la mafia a donné son autorisation aux Nigérians pour distribuer la drogue et pour gérer la prostitution, en échange du versement d'une commission pour ces activités-là.
Et tout ça, vous le soulignez là aussi, vous parliez de violence, et c'est vrai qu'on s'attend à de la violence, et en fait, vous évoquez ce que vous appelez la pax mafiosa, avec la violence qui n'est plus un élément pertinent. Vous parliez de colonisation mafieuse discrète qui s'appuie sur des attitudes de déni et de complicité. Ça, c'est évidemment assez vertigineux. Enquêter sur la mafia en France, Clotilde Champerrache, est-ce qu'on enquête sur la mafia en France comme on peut enquêter en Italie où les choses sont...
Alors, les enquêtes existent au niveau policier, au niveau de la justice. On a des formes de coopération. Ça existe. On a les mandats d'arrêt européens qui existent. On a, via Europol aussi, des cellules qui travaillent plus particulièrement sur les questions. Notamment, il y a une cellule pour la mafia calabraise qui est celle qui préoccupe le plus ces derniers temps. Pour les chercheurs, c'est une autre histoire parce que l'Italie communique énormément sur les mafias. On a accès, on évoquait tout à l'heure la direction d'enquête anti-mafia. Deux fois par an, elle publie un rapport énorme, plusieurs centaines de pages avec cartographie du phénomène. Elle synthétise l'ensemble des enquêtes concernant les mafias italiennes, mais aussi les organisations criminelles étrangères présentes sur le territoire italien. Ça, c'est accessible en ligne. Les sentences de procès anti-mafia avec leurs motivations sont souvent accessibles aussi en ligne en Italie. En France, on n'a pas accès à ces informations-là. C'est extrêmement compliqué. Généralement, on se heurte à des clauses de confidentialité. On vous dit qu'il y a des noms de personnes qui apparaissent, donc on ne peut pas communiquer sur ces informations-là. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir accès à ces informations, sachant en plus que derrière ça, il y a un biais dans ce que les enquêteurs vont prendre en considération, notamment ce biais en faveur de tout ce qui est trafic de stupéfiants, sans voir ce qu'il y a derrière. En 2011, du côté de Menton, on démantèle un réseau de trafic de drogue avec des mafieux calabrais. Donc ça, c'est mis en avant. On identifie la famille calabraise qui est aux commandes, etc. Mais, incidemment, dans l'enquête, on voit qu'un des condamnés est à la tête d'une entreprise de BTP, entreprise de terrassement. Donc quelque chose qui n'est pas neutre, quelque chose qui permet encore une fois d'accéder au financement public. Et là, il n'y a pas d'enquête patrimoniale de déclencher. L'entreprise est liquidée, mais elle est liquidée par la justice italienne.
Vous parlez des impératifs de coopération internationale. Alors, on a bien compris que c'est pas forcément ce qui accourt aisément en Europe. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Ça nous permet un petit peu de parler de cette extension des mafias hors des frontières d'origine. On l'a un petit peu rapidement évoqué, mais c'est vrai que la mondialisation a probablement contribué aussi à cette internationalisation, même si pour la mafia italienne aux États-Unis, la mafia italienne n'a pas attendu la mondialisation pour s'implanter aux États-Unis et plus largement en Amérique du Nord, mais que tout ça remonte à il y a plusieurs décennies. Est-ce qu'il y a coopération entre les différentes polices italienne, par exemple, et nord-américaine sur ces questions ?
Alors, la coopération, elle existe. Hein, au niveau policier, elle existe, y compris au niveau de l'Europe. Et heureusement, elle est même parfois très, très importante. Pour les États-Unis, effectivement, les liens avec les États-Unis, c'est au moins les années 20. Il y a déjà du trafic de stupéfiants dans les années 20 avec la mafia italienne présente sur le territoire des États-Unis. Donc, c'est une longue histoire. Et c'est vrai que la mondialisation, à partir des années 90, va augmenter la potentialité, augmenter la... Enfin, il y a une massification du commerce mondiale qui favorise aussi une massification du déplacement de marchandises illégales. Donc il y a une montée quantitative dans l'économie illégale, mais les choses sont déjà en place auparavant. Alors la coopération avec les États-Unis, elle existe. C'est quand même aussi largement ce qui a permis le maxi-procès de 1986. Le juge Falcone, hein, il allait régulièrement aux États-Unis. Les États-Unis ont extradé Tommaso Buscetta. Donc la coopération existe. Elle s'est beaucoup faite autour de la question des stupéfiants, toujours, parce que c'était aussi la guerre contre la drogue des États-Unis, mais ça a été un point d'entrée que le juge Falcone a réussi à exploiter. Et ce que disait le juge Falcone aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'il a commencé la méthode Falcone, c'est-à-dire suivre l'argent, la Suisse a coopéré. Alors, il fallait qu'il lui demande précisément les choses. Mais la Suisse répondait. La Suisse n'a pas été proactive, mais elle a totalement répondu à chaque demande du juge Falcone. Donc, la coopération existe, mais ce qui n'est pas encore totalement répandu, c'est la compréhension de la spécificité de ce phénomène mafieux pour le comprendre dans sa globalité. Donc, parfois, on a tendance à attaquer en un point alors qu'il faudrait multiplier les attaques sur la multidimensionnalité du phénomène mafieux.
Alors précisément, et pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire là-dessus, Clotilde de Champérage ?
Qu'il serait bon quand même que d'autres pays que l'Italie adoptent ce délit d'association mafieuse pour bien comprendre qu'on est dans une strate supérieure de cette organisation criminelle. Tenir compte des alertes italiennes parce que, encore une fois, l'Italie est souvent accusée à la fois de ne pas avoir réussi à extirper les mafias et puis d'en faire trop sur les mafias. Par exemple, c'est l'article 41 aussi qui permet un régime carcéral extrêmement dur, donc qui est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est la réponse aussi à une emprise des mafias sur le système carcéral. Donc il faut comprendre la réalité du phénomène. Et là aussi, on est dans de l'infiltration massive quand on arrive à contrôler les prisons. Donc comprendre les dispositifs italiens, les adopter, parce qu'au pire, on ne les utilisera pas. On peut ne pas condamner pour association mafieuse une organisation criminelle qui n'en est pas. Mais avoir l'outil à disposition, ça peut être utile pour véritablement, lorsqu'on est sur le trafic de la famille Pellegrino de stupéfiants, regarder ailleurs et éventuellement déclencher ces enquêtes patrimoniales.
Parce que danger sur cette attitude de déni, y a menace pour la sécurité collective.
Oui, parce que on est dans des sociétés contrôlées par les mafias. Quand on est sur un territoire de mafia au sens strict du terme, ça veut dire que c'est une criminalité du quotidien. Ça veut dire que pour quelqu'un qui voudrait respecter la loi, il doit malgré tout intégrer la présence des mafieux sur le territoire. C'est-à-dire savoir que, par exemple, il va être racketté, savoir que quand il consomme un bien, il est potentiellement produit par une entreprise mafieuse, qu'on peut lui demander de voter pour telle ou telle personne. Donc il est conditionné par cette présence criminelle.
Et parce que, pour en revenir à ce que vous évoquiez précédemment, le BTP, quand on construit une autoroute ou une route en France ou dans d'autres pays européens, il y a des chances pour que ce soit une façon d'alimenter le phénomène mafieux ?
Actuellement, il y a la problématique du train à grande vitesse, de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. L'Italie ne cesse pas d'alerter sur les risques d'infiltration mafieuse dans la construction de ce chantier. En Italie, il y a une législation sur la sous-traitance, parce qu'on sait que c'est un moyen aussi de gérer ces marchés-là. Ce n'est pas une entreprise mafieuse qui décroche le marché, mais après, elle sous-traite les travaux et que c'est là que les mafieux vont se présenter. En Italie, c'est très limité, ce recours à la sous-traitance. L'Europe ne comprend pas pourquoi l'Italie réclame que la norme italienne soit adaptée aussi pour ce chantier-là.
Merci Clotilde Champérage. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de l'économie criminelle et que vous êtes venue nous parler de votre dernier ouvrage, Géopolitique des mafias, paru aux éditions Le Cavalier Bleu, une émission tout à fait passionnante. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.